Bonjour, ici Marc Levasseur. Je vous souhaite la bienvenue à Django et compagnie, l'émission consacrée au jazz manouche et aux musiques apparentées. On parle de jazz, évidemment, de musette, musique des Balkans, tzigane, flamenco, klezmer, musique du Moyen-Orient et plus largement des musiques du monde, parce qu'on aura effectivement au cours de l'année qui vient différents groupes là, qui viennent de différentes, sauces musicales. Ces variations musicales, évidemment, sont teintées d'influences locales, telles qu'on peut les entendre à Montréal, au Québec et ailleurs dans le monde. Je vous rappelle que nous sommes diffusés deux fois la semaine, les mercredis et les vendredis en soirée, sur les ondes de CIBL 101,5. Et vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook et Instagram qui s'appelle « Montréal est Jazz Manouche ». Est comme dans E-S-T et non pas E-T. Montréal est Jazz Manouche. Cette semaine, on poursuit la fascinante série que nous a proposée Christine Tassin. Bonjour, Christine.
Bonjour.
Alors, Christine a entrepris, durant 5 épisodes, de nous parler de la vie de Django Reinhardt. Ça, c'est vraiment fascinant, vous allez voir. Il y a toutes sortes de belles anecdotes et il y a surtout de la musique très rare qu'on va entendre. Et d'ailleurs, on va commencer avec une pièce qui remonte un peu. Là, on est rendu à l'époque où Django Reinhardt a découvert le jazz. Et là, on l'entend dans la pièce qui vient avec le saxophoniste et clarinettiste André Équian. Comme je disais, c'est avec lui que Django a commencé à faire du jazz. Alors, on écoute de suite la pièce « Ungaria ». Un enregistrement qui date des années 30, donc il y a presque 100 ans. C'est quand même assez incroyable. Et vous voyez, bon, il y a un grand trou au début. Il y a toutes sortes de choses, le son et so-so, mais la musique de Django Reinhardt. D'ailleurs, Christine Tassin me disait à l'instant qu'elle redécouvre. Alors, bonjour, Christine.
C'est incroyable. C'est vraiment génial. Bonjour, bonjour.
Oui, parce que effectivement, Django, on arrive là, il est sorti de l'hosto, il a rencontré Grappelli, où il est sur le point de rencontrer.
Alors, ben, en fait, dans le deuxième épisode, on a laissé Django, donc il venait juste d'être initié au jazz par Émile Savitri. Et en écoutant donc la musique de Louis Armstrong, il a pleuré et il a décidé de consacrer sa vie au jazz. Et en parallèle, il y avait le violoniste Stéphane Grappelli qui, lui, a découvert le jazz avec le violoniste américain Joe Venuti et lui aussi est tombé en amour avec le jazz. Alors on en est là, ils ne se sont pas encore rencontrés. Mais ça va arriver en 1931, justement grâce à ce qu'on venait d'entendre. En fait, c'était l'orchestre de André Équian. Et Django joue dans cet orchestre et Grappelli joue aussi. Ça se passe dans un club de jazz qui s'appelle la Croix du Sud. Et voilà. Donc là, ils se rencontrent.
Oui, parce qu'il y en a un qui s'accordait, puis l'autre l'a entendu. En fait, il y a une petite anecdote.
Alors, c'est ça, la petite histoire. Il semblerait qu'à un moment donné, donc Grappelli casse une corde. Il est en train de se réaccorder dans l'arrière-salle, et puis Django l'entend, et ils commencent à jammer ensemble. Et ils vont donc, comme ça, de manière informelle, commencer à jouer ensemble entre deux sets de musique. Et finalement, ils vont vraiment créer un quintet.
Un style aussi, parce que le jazz en France, à l'époque, c'est pas encore là. Django, il vient d'une autre école, en fait.
Django vient d'une autre école, mais le jazz a commencé à arriver, puisqu'il y a quand même, genre, André Équian et son orchestre, il y a quand même des orchestres de jazz qui se produisent. Il y a des Américains qui viennent aussi en France.
Oui, oui.
On est avant la Deuxième Guerre mondiale, on est entre les deux guerres. Donc, la musique circule, les musiciens circulent aussi. Donc, quand même, le swing est déjà là. Le swing existe déjà, et Django baigne dans cette atmosphère-là. Donc, c'est sûr que lui, il s'intéresse à ça, et avec l'oreille qu'il a, très rapidement, il s'intègre dans cette musique-là.
Django, de là, a développé des exigences pour une orchestration minimaliste qui comprenait des guitares, une contrebasse, et une deuxième guitare rythmique. Là, je pense que c'était un...
Mais en fait, alors, ça s'est fait un peu naturellement. Ça s'est fait naturellement. Donc, ils se rencontrent en 1931. Puis c'est vraiment en 1934 que là, en fait, le Hot Club de France, qui était un espèce d'organisme qui faisait la promotion du jazz, c'est là que cet organisme... avec Charles Delaunay, qui va devenir en fait un peu l'imprésario de Django. C'est là que Charles Delaunay propose vraiment à Django et à Grappelli de créer un véritable orchestre. Donc, il crée ce quintet avec Louis Vola, qui était l'accordéoniste avec qui Django avait joué, mais qui devient le contrebassiste. Il joue aussi de la contrebasse. Donc, dans le quintet, il y aura Louis Vola, il y aura Roger Chaput et Joseph Reinhardt, qui est le frère, le jeune frère de Django, et qui va porter la guitare de Django pendant toute sa vie, et qui va aussi jouer, parce que Django avait dit à Grappelli, toi, au début, c'était un quatuor. Il y avait juste Django, un autre guitariste, un contrebassiste et Grappelli. Puis Django, il avait dit à Grappelli, toi, quand tu joues, tu as deux guitaristes qui t'accompagnent, deux guitaristes rythmiques. Mais moi, quand je joue, j'ai juste un guitariste. Donc, c'est là qu'il a fait rentrer son frère pour que lui aussi ait deux guitaristes qui l'accompagnent.
Tâche ingrate d'accompagner son grand frère.
Eh oui.
Mais s'il s'appelle Django Reinhardt, on peut comprendre.
C'est
parce que les leçons devaient être belles.
Ben oui, c'était quelque chose.
Il y avait des défis, mais là, Django aussi, à un moment donné, a commencé à accompagner des gens, Jean Sablon, etc. Je veux dire, ce club-là a élargi un petit peu ses horizons.
Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, au début, le quintet, ça a été un peu difficile au tout début du quintet parce que c'était une musique très nouvelle pour l'époque et surtout la manière dont c'était fait, donc avec un orchestre juste avec des cordes, acoustique avec des cordes, ça tranchait complètement avec ce qui se passait aux États-Unis où il y avait des cuivres. Et d'ailleurs, Grappelli avait dit que cet orchestre-là était un orchestre sans tambour ni trompette. Il n'y avait pas de batterie et il n'y avait pas de cuivre. Alors au début, le public était plus ou moins prêt à entendre cette musique-là. Et puis finalement, ils ont fait un premier enregistrement et c'est devenu très rapidement un grand succès. Très rapidement, le quintet a tourné.
D'ailleurs, on peut écouter une pièce, comment dirais-je, c'est vraiment la pièce marquée de Django des années 30, qui a été... La version qu'on a, elle a été faite dans les années... au début des années 40. Ça s'appelle Minor Swing.
Oui, le premier grand tube de
Django. Oui, et qui marque Django aussi avec la pompe, là, ça marque vraiment le style. Hein.
Tout à fait.
On écoute Minor Swing. Thank you. Minor Swing. Alors, je dois faire amende honorable puisque Christine Tassan m'avait demandé la version de 37, qui était la version avec juste les instruments acoustiques. Et comme vous avez pu l'entendre, j'ai trouvé la version un petit peu plus tardive qui comprend des cuivres, un peu une batterie, etc.
Comprend un piano, en fait.
En plus.
Un piano et batterie, donc c'est pas la version originale. Mais elle est géniale aussi.
Alors, Christine m'a grondé, mais ceci étant, on poursuit. Alors, on arrive à la guerre, Christine.
Alors, effectivement, donc là, ça va très, très bien pour le quintet. Il tourne un petit peu partout en Europe. Et il se retrouve donc aux côtés de musiciens exceptionnels comme Coleman Hawkins ou Benny Carter. Et puis, en 1939, arrive cette Deuxième Guerre mondiale. Donc, la Deuxième Guerre mondiale éclate en 1939. Le quintet, à ce moment-là, est en Angleterre. Grappelli, lui, il décide de rester à Londres. Par contre, Django, il préfère rentrer auprès des siens. D'abord, il ne parle pas anglais. Et puis, lui, c'est un gitan, c'est un manouche. Il veut rester auprès de sa famille. Donc, lui, il rentre en France. Et il n'est pas mobilisé parce que, à cause des blessures de son accident quand il avait 18 ans, donc à cause de ses brûlures, il n'est pas mobilisé. Donc, il ne part pas à la guerre. Et il va se retrouver à Paris. Il va se retrouver donc en zone occupée. Donc en 1940, il se retrouve à Paris. Et là, les musiciens ne circulent plus. Les musiciens américains ne peuvent plus aller en France puisqu'il y a la guerre. Donc il n'y a plus de musiciens américains qui arrivent. Et ça va être une heure de gloire pour les musiciens français et notamment pour Django, qui va être propulsé sur le devant de la scène et qui va devenir une star vraiment aussi connue qu'Edith Piaf. Enfin, c'est vraiment la grande star à l'époque, propulsée notamment par la mode zazou.
Ouais.
Les zazou, c'était des jeunes qui avaient adopté le swing et qui avaient une espèce de tenue très décontractée et qui, en fait, qui étaient comme en rébellion par rapport à tout ce qui se passait. Et leur mode à eux de se rebeller était vraiment de... il y avait comme une espèce de je m'en foutisme par rapport à la guerre et par rapport à tout ce qui se passait, et ils avaient adopté le swing comme mode d'expression.
Là, la thèse du film Django, là, c'est justement que, parce que Django est manouche, les manouches sont ciblés par les nazis, on le sait, mais comme Django a un petit groupe qui fait un peu du entertainment, en fait du divertissement pour les officiers allemands, on le laisse peut-être un peu plus respirer. C'est quand même quelque chose dans l'histoire. En fait, c'est la thèse du film Django, en quelque part.
Oui, c'est ça. Mais en fait, Django s'est retrouvé un peu pris, enfin, malgré lui, bien sûr, entre le fait que lui connaissait une heure de gloire et puis le fait que toute sa communauté était envoyée dans les camps nazis, parce que c'est ça qui se passait.
Ben oui.
Alors, ça a été une période...
difficile.
Ouais, particulière pour lui à cette époque-là.
Donc, Django finit par passer la guerre. Il passe en Suisse. Le film en traite, d'ailleurs, il y a un passage. Je ne sais pas si vous avez vu le film, mais il y a un passage.
Oui, ben en fait, ça se passe en 1943. Mais avant ça, je veux revenir quand même sur un point important. C'est que il a sorti un morceau qui est devenu emblématique, qui s'appelle Nuages, qui
est un
des plus beaux morceaux, une des plus belles compositions de Django. Et ça se passe en 1940. Et il enregistre Nuages, il ne peut pas l'enregistrer avec Grappelli, puisque Grappelli est resté à Londres. Donc il enregistre Nuages avec le clarinettiste et saxophoniste de jazz Hubert Rostand, qui va remplacer Grappelli dans le quintet. Et ce morceau-là est devenu comme un espèce de morceau emblématique, un peu de l'esprit, d'un esprit libre, finalement, dans ce moment où les Français étaient occupés par la guerre et étaient en zone occupée. Donc, c'est devenu comme un espèce de morceau d'espoir. Et c'est un morceau qui a été extrêmement connu à l'époque. Il y a même Lucienne Delisle, donc une chanteuse très connue de l'époque, qui a mis des paroles dessus. Donc, ça a été chanté aussi.
On va en écouter une version, d'ailleurs, dans un épisode subséquent. Donc, 43, la Suisse...
Alors, en 1943, Django se sent plus en sécurité à Paris et il essaye de passer en Suisse. Mais là, il va être refoulé à la frontière par des gardes allemands et il n'est pas tué, heureusement. Mais l'officier lui dit de retourner à Paris. Donc là, il rentre à Paris et il va marier Sophie Ziegler, qui est sa deuxième femme, qui va être surnommée Nagin. D'ailleurs, il y a un morceau qui s'appelle Nagin. Et il va y avoir la naissance de son deuxième fils, Babik Reinhardt, qui deviendra lui-même un guitariste absolument extraordinaire.
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc, ils se tiennent, à ce moment-là, ils se tiennent dans un quartier à Paris qui s'appelle Pigalle.
Ah oui.
Et ça devient un petit peu son lieu. Enfin, il est tout le temps là. Et pourquoi il est là en particulier ? Parce qu'il y a une des stations de métro, la station Pigalle, qui est la station, une des stations les plus profondes, le plus profondément enterrées.
Ah oui.
Et
ah oui.
C'était des abris contre les bombes. Donc, ils pouvaient s'abriter là si jamais il y avait
On sort deux minutes, on fait deux pièces, puis on rentre.
C'était un peu ça. Voilà. Alors, il se tient dans un cabaret qui s'appelle La Roulotte et qui va finalement devenir un peu son propre cabaret. Je ne sais pas s'il est devenu propriétaire, je ne pense pas, enfin. Mais en tout cas, les gens qui organisaient les spectacles à La Roulotte ont fini par marquer une enseigne où c'était marqué « Chez Django Reinhardt ». Donc, c'est un petit peu comme si c'était son cabaret.
C'est comme Charlie Biddles à Montréal avec la maison du jazz. Il n'a jamais été propriétaire.
C'est ça.
Vraiment, les musiciens ont souvent été exploités, malheureusement. À la Libération, parce qu'à un moment donné, la guerre se termine.
Voilà.
Grappelli rentre.
Alors, il se retrouve, je ne sais pas s'il se retrouve à Paris ou si c'est à Londres que ça se passe, mais effectivement, ils se retrouvent, les deux, Stéphane Grappelli et Django Reinhardt. Et là, spontanément, ils jouent et ils enregistrent. Heureusement, il y a un enregistrement de ça, la Marseillaise. Et alors, à leur manière à eux, ça a fait un petit peu scandale à l'époque, là, mais on a gardé cette version très, très originale et très enthousiaste de la Marseillaise.
On l'écoute de suite. La Marseillaise, version Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. Christine disait juste avant que ça avait fait scandale. Écoutez, il y a eu après Serge Gainsbourg qui a fait pire. Hein?
Oui, effectivement.
On voulait vous revenir un peu, Christine, sur la relation entre Django et Stéphane Grappelli. Je pense qu'il y a plusieurs choses à dire là-dessus. C'était vraiment une relation musicale d'abord et avant tout, mais c'est deux êtres humains aussi.
Oui, mais alors c'est ça qui est drôle, comment deux êtres quand même très différents ont pu être aussi complémentaires au niveau musical. Grappelli est 2 ans plus âgé que Django. Donc Django a toujours eu un très grand respect parce que dans la culture gitane, l'aîné est toujours très respecté. Alors, donc Django avait un très grand respect pour Grappelli. Un petit peu d'ailleurs comme le frère Joseph Reinhardt avait été plus jeune que Django.
Celui qui trimbalait la guitare
voilà,
de Django.
C'était un petit peu ça aussi. Il trimbalait la guitare du grand frère. Il a toujours été un peu dans l'ombre du grand frère. Et puis en même temps, c'est ça qui est particulier parce que autant Django, enfin, d'après ce que j'ai lu, était quand même quelqu'un d'assez un peu taciturne. Bon, il savait pas lire ni écrire, donc il avait à ce niveau-là une lacune d'une certaine manière. Alors que Grappelli, quand même, venait d'un milieu plus cultivé à ce niveau-là.
Et il lisait la musique, notamment.
Il lisait la musique, et puis bon, il savait lire et écrire. Donc c'était. Puis bon, Django avait un côté plus. Bon, c'était un gitan. Grappelli était, il y avait quelque chose d'un petit peu plus délicat dans sa personnalité aussi. Donc là, que les deux se soient entendus aussi bien, c'est particulier. Mais bon, c'est vraiment ce qui est arrivé. Ils étaient très complémentaires au niveau musical et ils se sont répondus de manière extraordinaire au niveau de la musique.
Vous, Christine Tassin, qui êtes une guitariste, vous êtes connue, mais vous êtes aussi aguerrie. Est-ce que, comment la complicité, parce que comment ça se passe entre deux musiciens? Parce qu'il y a des gens avec qui on peut, n'importe quel professionnel va s'asseoir avec n'importe qui, va pouvoir jouer, va pouvoir improviser. Mais quand la mayonnaise prend pour vrai, qu'est-ce qui fait la différence?
Ben, je pense que c'est un petit peu comme rencontrer quelqu'un. Il y a des gens avec qui, immédiatement, on a des atomes crochus, et puis d'autres, ça se passera jamais.
Okay.
Donc, je pense qu'il y a le hasard, déjà en partant, qui fait qu'on s'entend bien ou pas naturellement avec quelqu'un. Et puis après, ben, il y a une question d'écoute, c'est beaucoup ça. Être capable d'écouter ce que l'autre... C'est comme une conversation. Il faut être capable d'écouter ce que l'autre nous dit, et puis de répondre dans le même sens. Donc, c'est vraiment une communication, hein. Pour moi, la musique a toujours été comme une langue. C'est vraiment ça.
Mais de toute façon, il y a une thèse scientifique qui dit en fait que la musique serait apparue avant le langage.
Ah, c'est possible.
Autour du feu, évidemment, dans une caverne, loin, près de chez vous, il y a longtemps.
Peut-être.
Christine Tassin, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Et surtout, le dernier petit bout, il était vraiment très intéressant. Je pense que plusieurs vont s'en délecter. Alors, merci beaucoup. Ça va être tout pour cette semaine. On va vous quitter sur une pièce de Django qui s'appelle « Daphné ». C'est tout pour cette semaine. Chroniqueuse invitée Christine Tassin, régie Lucas Egensperger et Maurice Bolduc. Thème d'ouverture, animation et réalisation plutôt Marc Levasseur. Je vous dis pour la suite, en fait, la semaine prochaine, on continue évidemment cette fascinante série de chroniques sur la vie de Django Reinhardt. Alors, soyez des nôtres et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!